Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la France à tout pour réussir. Chaque week-end, chaque semaine, vous le savez, sur BFM Business, un concentré d'économie positive. Et bien, après la foire de Paris le week-end dernier, nous voici maintenant au Paris Event Center dans le quartier de la Villette à l'occasion de la 6e édition du salon iEvolution, salon de l'hydrogène. Et une nouvelle fois, donc, tous les acteurs qui comptent en France et en Europe dans ce secteur sont présents à ce rendez-vous de iEvolution. Certains sont parmi nous aujourd'hui. Avec eux, nous parlerons notamment de la stratégie française en matière d'hydrogène vert, hydrogène décarboné. Et chaque entreprise nous parlera également, bien sûr, de sa propre stratégie et de ses ambitions. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, un rapide tour de table. Philippe Boucli, président de France Hydrogène, qui fédère les principaux acteurs de la filière. Je me tourne vers les entreprises côté gauche avec Philippe Mérineau, vice-président d'Air Liquide pour la zone Europe du Sud-Ouest. Air Liquide, bien sûr, un des acteurs français historiques et majeurs de la filière. Également Luc Poyer, président de McPhy, qui propose des solutions hydrogène à ses différents clients. Et puis entre vous, donc Jean-Baptiste Choimet, directeur général d'Elogène, qui produit également ces 6 précieux électrolyseurs dont on reparlera plus longuement dans quelques instants. Enfin, avec nous également Florence Rousson-Monpeau, directrice de la nouvelle entité Green Tech Plus au sein de JL Events, qui organise ce salon hydrogène. On commence avec vous d'ailleurs, Florence, et on le voit, on est ici, on est ravis d'être en présentiel. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de participants. C'est une édition 2022. On était à la foire de Paris il y a quelques jours. Il parlait de renouveau, c'est reparti. C'est un peu la même chose pour ce salon.
Nous sommes très heureux d'ouvrir cette manifestation dans cette dynamique. Nous avons travaillé depuis de nombreux mois avec France Hydrogène pour en assurer la réussite et en tous les cas en garantir le succès. Je crois que nous avons les chances d'être sur une filière extrêmement porteuse et les dernières manifestations que l'on a organisées ont toutes été extrêmement dynamiques et je crois que le salon reflète aujourd'hui ce qu'est la filière et ce qu'est le marché.
Alors donc, il y a de nombreux groupes du CAC 40, on a ici Air Liquide, combien de PME, de PMI, beaucoup de régions aussi.
Tout à fait, une très belle dynamique et en tous les cas un salon qui fédère la profession et le marché aujourd'hui. C'est important, je crois, de se dire que le salon est un démonstrateur de ce qui se passe au niveau économique et au niveau politique. La France prend une position qui est stratégique et déterminante à l'échelle de la politique européenne et de la politique mondiale. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir compter 310 entreprises et marques qui sont présentes sur cette manifestation. 18% d'entre elles sont internationales. 11 entreprises du CAC 40, 11 territoires représentés. Donc une dynamique d'ensemble qui va être extrêmement structurante pour les acteurs qui vont venir sur iEvolution durant ces deux journées.
Philippe Boucli, donc vous êtes le président de France Hydrogène. Combien de membres et toutes tailles confondues, donc aussi parmi France Hydrogène ?
L'association, donc, qui, comme vous le disiez, réunit l'ensemble des acteurs de l'hydrogène en France, jouit de la même dynamique qui existe dans le monde, en Europe et en France. Nous avons maintenant dépassé le cap des 420 membres. Nous étions 60 en 2016, 120 en 2019, 420 maintenant. Et à la fois des grands groupes, une centaine de grands groupes, 200 PME, PMI, start-up. Tous les laboratoires de recherche de France sont membres de France Hydrogène. Et ce qui est probablement une de nos spécificités, des territoires. Donc toutes les régions de France sont membres de France Hydrogène, mais également des agglomérations, des métropoles, des communautés de communes, des syndicats mais également des syndicats d'énergie, des syndicats de transport et des pôles de compétitivité.
Et pour bien planter le décor, eh bien, je vous propose de regarder ce sujet signé Jean-Baptiste Huette qui résume la stratégie française dans le domaine de l'hydrogène. Il évoque bien sûr notamment le plan d'investissement de 9 milliards. On en parle juste après.
Faire de la France un pays producteur d'hydrogène, c'est le premier objectif du plan. Mais attention, un producteur d'hydrogène vert, c'est-à-dire en utilisant la technologie de l'électrolyse avec de l'électricité d'origine nucléaire, solaire ou éolienne. De l'hydrogène, pourquoi faire ? D'abord pour décarboner certains secteurs industriels, la sidérurgie, l'industrie pharmaceutique, les cimenteries, très consommateurs de gaz et gros émetteurs de CO2. Ensuite, décarboner la mobilité lourde, les trains, les bus, les camions, un peu plus tard les avions, et enfin développer le stockage d'énergie. L'hydrogène peut en effet être converti en électricité et réciproquement. Au total, le plan prévoit une enveloppe de 9 milliards d'euros d'ici à 2030 pour monter progressivement en puissance. À la différence d'autres pays comme la Chine ou certains États américains, les projets français ne prévoient pas dans l'immédiat le développement massif de l'hydrogène pour nos voitures du quotidien. Pour finir, un volet infrastructure essentiel, stations de production, sites de stockage, pipeline. Mais devant l'immensité de la tâche et de l'avis de tous les experts, il faudra débloquer des fonds supplémentaires et surtout mutualiser ces infrastructures, ces réseaux avec nos voisins européens.
Alors, beaucoup de choses, Philippe Bouclier, dans ce sujet. Si j'en reprends une, d'abord les objectifs. On mise beaucoup donc sur la décarbonation de l'industrie et de la mobilité lourde. D'autres pays, on l'a dit, l'Allemagne, la Chine, misent peut-être plus sur les véhicules particuliers. La Chine qui, je crois, envisage 1 million de véhicules à l'hydrogène pour les particuliers d'ici 2030. Est-ce que c'est eux, est-ce que c'est nous qui avons fait ou qui faisons les bons choix, selon vous?
Tout d'abord, je tiens à, saluer l'engagement des autorités gouvernementales en faveur de l'hydrogène et de montrer le chemin qui a été parcouru. C'est même pas un chemin, c'est un bond en avant qui a été parcouru au cours des dernières années. Si vous vous souvenez, le 1er juin 2018, Nicolas Hulot présente seul le plan hydrogène, et il dit dès 2019, on va mettre 100 millions d'euros, et 100 millions, c'est pas rien. Et là,
Et là, on est sur 9 milliards.
Je pense que c'est plus que 9 milliards. Plus. Je pense qu'on dépasse les 10 milliards si on compte d'autres budgets alloués, notamment à l'automobile ou à l'aviation.
Et qu'est-ce qui a fait ce déclic? Pourquoi est-ce qu'on est passé en 2018 de 100 millions à plus de 9 milliards?
C'est cette prise de conscience la volonté que l'hydrogène pouvait justement, au-delà des objectifs de décarbonation, être également un facteur de réindustrialisation. C'est lors d'une de ces conférences de presse que le président Macron dit je demande au Premier ministre de faire un plan de réindustrialisation. Et à partir de là, on a eu l'écoute du ministère de l'économie. Et le 8 septembre 2020, ces deux ministres, trois même, donc Mme Pompili, M. Le Maire et parfois Mme Agnès Pannier-Runacher, qui ont présenté ce plan qui montrait bien l'imbrication et la nécessaire coordination entre l'écologie et l'économie.
Est-ce qu'on a fait les bons choix? Donc j'ai dit d'autres. Alors, il y a d'autres pays qui ont fait des investissements plus massifs et d'autres choix dans les objectifs.
Votre documentaire le rappelle, trois piliers, décarbonation de l'industrie et se fonder sur les grandes quantités qui seront nécessaires pour fonder une filière française de l'électrolyse compétitive, et je pense que nos amis vont en parler.
Oui, absolument.
Et deuxièmement, décarboner la mobilité professionnelle, mobilité lourde, mobilité intensive. Mobilité intensive, c'est les taxis, c'est la logistique du dernier kilomètre, et maintenir un haut niveau d'exigence et d'excellence en recherche, développement et innovation. Nous sommes complètement en ligne avec cette approche. C'était les priorités qu'il fallait avoir pour changer d'échelle et réduire les coûts. Je signalerai quand même quelques angles morts dans cette stratégie. C'est tout d'abord tout ce qui est stationnaire. À juste titre, les applications stationnaires ont été repoussé, je ne vais pas dire écarté, mais repoussé, à juste titre, parce que RTE, le gestionnaire du réseau électrique, nous dit il n'y a pas beaucoup de renouvelables en France, et donc il n'y a pas besoin d'hydrogène pour stocker les excédents de renouvelables. Ceci étant, il y a des îles, il y a un nombre d'îles incroyables françaises, et donc ces territoires isolés peuvent bénéficier de ces applications stationnaires. On a des champions, Povidian, H2-6, EODEV, Hydrogène de France Énergie. Bon, premier, donc, poussé sur le stationnaire. Deuxième angle mort, on a beaucoup privilégié la production d'hydrogène, hydrogène vertueux, renouvelable ou bas carbone. Il faudrait stimuler également la demande et développer notamment l'offre de véhicules utilitaires légers plus rapidement. Les produits existent, on a la chance d'avoir deux constructeurs qui ont des modèles. Mais il faut que leur production se développe. Troisième angle mort, des solutions à explorer, des solutions qui ont été envisagées dans le passé, mais qui ont été écartées, mais qui reviennent sur le devant de la scène, c'est le moteur à combustion interne à hydrogène, qui peut être un facteur d'accélération pour la mise en place justement d'une infrastructure de recharge. Et puis des solutions à développer, qui sont mises au point, mais qui demandent à être développées, c'est la production d'hydrogène à partir de biomasse, procédé Inoka de la société Hafner. Et je dirais le quatrième angle mort, c'est aller vers une approche plus ouverte. Il se répand l'idée, notamment à Bruxelles, que la France est un peu étriquée et resserrée sur son nucléaire et la production autarcique d'hydrogène. C'est à mon sens complètement faux. Et on oppose l'attitude de la France à celle de l'Allemagne,
Ouais.
semble ouverte. Je pense que, et c'est les travaux que nous menons actuellement, en étudiant de façon très fine les besoins au niveau des bassins, au niveau des territoires, on va aller vers cette position ouverte où un réseau va se développer, comme c'était en conclusion du documentaire. Un réseau va se développer, il va s'ouvrir sur l'Allemagne, il va s'ouvrir sur l'Espagne.
On va reparler de l'implantation très importante dans les territoires. Je me tourne vers vous trois. La stratégie de la France, je commence avec vous, Philippe Mérino, acteur, donc on l'a dit, historique. Vous êtes vice-président d'Air Liquide pour la zone Europe du Sud-Ouest. La stratégie de la France, telle qu'on vient d'en parler avec Philippe Boucli, telle qu'elle est dans le sujet, est-ce qu'elle vous semble bonne? Est-ce qu'on fait les bons choix actuellement?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec Philippe Boucli. Enfin, il faut saluer le support et l'écoute des pouvoirs publics, je crois, sur les derniers mois. Il y a eu des mécanismes extrêmement puissants pour aider à la filière à se structurer il y a une vraie dynamique qui a été créée. Peut-être un point qui est très présent dans la stratégie qui mérite d'être rappelé, c'est la vue des bassins. C'est de vouloir massifier autour de bassins industriels qui nous semble tout à fait essentiel.
Et vous, c'est votre stratégie chez Air Liquide?
Et je rebondirai effectivement là-dessus. Après, peut-être relever la nécessité d'énergie bas carbone ou renouvelable. Et je crois qu'il faut que l'État continue à promouvoir non seulement la production d'énergie, mais l'arrivée de cette énergie dans les bassins. Et donc, il y a de l'infrastructure électrique à prévoir. Et puisque Philippe Boucli mentionnait les angles morts, je pense qu'on ne parle pas assez d'hydrogène liquide qui est nécessaire pour le transport. On en parle beaucoup en Asie, beaucoup aux États-Unis. Et on a une filière d'excellence sur l'hydrogène liquide en France grâce à Ariane, grâce au spatial, qui mérite d'être, je crois, promu aussi.
Quels sont vos principaux projets de développement? Je crois qu'il y en a un dans la région de Normandie et vous faites partie de ces fameux IPCEI, ces 15 projets dont on parle beaucoup, qui attendent leur validation.
Alors absolument, le projet en Normandie est assez emblématique, je crois, de ce qu'on a réussi en tant que filière française et de notre stratégie, qui se bâtit à la fois sur notre expertise des dernières 50 années, où on a touché à toutes les formes d'hydrogène, que ce soit du liquide, du gazeux, etc. Et qui marque aussi la montée en échelle sur l'électrolyse. Et j'aime traduire ça avec en regardant un petit peu en arrière. En 2018, on inaugurait au Danemark un projet qui était le plus gros projet d'électrolyse. C'était 1 mégawatt. Ouais. En 2020, on a inauguré un nouveau projet au Canada, qui était à cette époque le plus gros projet d'électrolyse, c'était 20 mégawatts. Et maintenant, on parle de 200 mégawatts. Donc à la fois, c'est assez vertigineux, parce qu'en 5 ans ou en 7 ans, on passe de 1 mégawatt à 200. Et en même temps, et là je parle pour Air Liquide, on voit notre rôle d'industriel assez raisonnable. On ne passe pas de 0 à 200, il y a 1, 20, 200 qui nous rassurent, qui rassurent nos clients, et qui, je pense, est très importante pour donner de la légitimité, de la crédibilité à cette filière.
Je reste sur les projets IPCEI avec vous, Jean-Baptiste Choimet. Vous, le vôtre, il serait du côté de Vendôme, avec Elogène.
Alors, effectivement, pour une partie, donc Elogène, nous concevons et nous fabriquons des électrolyseurs à membrane, PEM, et notre projet IPCEI consiste d'abord en un volet R&D pour améliorer nos électrolyseurs, développer des électrolyseurs de grande capacité. Cette partie-là va être exécutée en région parisienne, près notamment de l'Université Paris-Saclay avec laquelle nous avons un partenariat, et la partie industrialisation, la massification, effectivement à Vendôme, où nous avons le projet d'installer une usine de stack d'électrolyse.
Et vos autres projets, dans quelle région? Est-ce qu'il y a des choses signées, des choses à venir également?
Alors après, notre défi, c'est de, déployer nos produits, effectivement. Alors il y a des projets en cours de développement en France, mais je pense que pour des acteurs comme nous, l'international est extrêmement important.
Et c'est l'Europe ou c'est l'international? Est-ce que c'est beaucoup plus que l'Europe?
Les deux. Parce que je pense que des projets d'hydrogène vert mettent du temps à se développer, pour des raisons techniques, régulatoires, commerciales. Et pour des entreprises comme la nôtre, il est important de ne pas se reposer que sur un seul bassin pour assurer notre déploiement.
On reste dans les électrolyseurs avec vous, Luc Poyer, le président de Maxfi, donc une entreprise qui a été créée en 2008. Vous êtes coté à Euronext. On a parlé il y a un peu plus d'un an et demi d'une grosse levée de fonds. C'était, je crois, 180 millions d'euros. Où en êtes-vous de cette croissance qui a été un peu fulgurante? Est-ce que vous êtes sur le même trend actuellement chez Maxfi?
Alors, on voit effectivement cette dynamique. Si mon collègue d'Air Liquide me le permet, nous sommes effectivement tombés dans la marmite hydrogène il y a 50 ans, mais il y a 15 ans, voilà. 2008, ce qui nous donne une certaine antériorité. On s'est engagé dans la construction de cette filière hydrogène avec France Hydrogène et on se réjouit de voir les progrès accomplis. Nous sommes donc un fabricant, pour que ce soit clair, parce que les métiers de l'hydrogène peuvent être un peu nouveaux. Nous sommes, comme Elogène, un fabricant d'électrolyseurs et un fabricant de stations de distribution d'hydrogène à la mobilité. Donc on a ces deux jambes, et notre métier, c'est de servir, d'accompagner les industriels qui veulent se décarboner, ceux que vous avez cités, des grands secteurs comme la sidérurgie, la cimenterie, le raffinage, la chimie, et les territoires qui veulent introduire la mobilité hydrogène. Donc on a une centaine de stations en référence dans tous les territoires. Si vous demandez quel territoire,
vous
direz tous. Et pour revenir aussi sur ce que disait Jean-Baptiste Choimet, nous aussi, nous ambitionnons l'international. Nous sommes European Native, puisque nos usines... Donc nous sommes un industriel, ça veut dire que nous avons des usines. Ça paraît...
Et votre site
dans la Startup Nation, il y a
des
beaucoup
usines.
De start-up. Il n'y en a pas beaucoup.
Et dans cette émission, on aime parler de ça.
Les gens que vous réunissez autour de cette table travaillent autour de l'usine, l'industrie réindustrialisée.
Et vous, votre site, il est où
pour exporter?
Il est à Grenoble, votre site de production.
On a un site, effectivement, à la Motte-Fangas, qui est en train de... Maintenant, qui est à Grenoble, que nous avons déménagé à Grenoble, avec une augmentation de capacité, x7, de 20 à 150 stations par an. Et nous avons une usine aujourd'hui en Italie, celle dont a parlé Jean-Baptiste Lucas, il y a quelques minutes, et là nous voulons ajouter une gigafactory, puisque c'est le terme consacré, à Belfort, avec 1 giga,
et c'est pareil,
ce qui ferait 1,3,
et ce sont
ce
les
qui
fameux,
est beaucoup et à la fois projets, peu au niveau des ambitions européennes.
Et ce sont les fameux projets, les 15 projets sur lesquels vous êtes en attente d'une confirmation. C'est voilà. À quelle échéance? C'est en fin d'année?
Alors c'est normalement à la fin du semestre que nous comprenons. Nous sommes raisonnablement optimistes. Et j'ajouterais, par rapport à ce qui a été dit, qu'effectivement, la stratégie française est solide, puisqu'elle mobilise les ressources nécessaires. Elle se construit autour d'une vision qui me paraît la bonne. Une question que vous avez pu poser, c'est est-ce que cette fois-ci, ça va marcher? Parce qu'on est à la cinquième vague d'engouement pour l'hydrogène. Mmh. Et donc, il y a eu le bon choix stratégique qui est de permettre l'effet d'échelle par la massification industrielle. Et cette massification va réduire les coûts, qui va permettre d'avoir une mobilité hydrogène. C'est quand même important de revenir à la logique de la stratégie industrielle française, parce que ce n'est pas des subventions pour des subventions. Et ensuite, les acteurs que vous voyez ici, peut-être les champions de demain, doivent exporter, puisqu'on a une balance
commerciale très déficitaire.
Et
de plus en plus depuis quelques mois.
Voilà, et donc c'est ça le combat à relever. Et il doit être européen, bien entendu, avec une ouverture. Peut-être que maintenant, l'enjeu, il est double. C'est d'exécuter. L'industrie est un art d'exécution. Ouais. Il faut effectivement prendre les décisions. Les IPCEI, il faut qu'ils débouchent. Et puis, il faut le mettre en œuvre et s'ouvrir sur l'international.
On va parler d'emploi, qui est un secteur aussi très important, parce que c'est un secteur qui va développer de très nombreux emplois en France, entre autres. Mais avant, l'actualité de la semaine, eh bien, c'est Life, qui a été créé il y a 5 ans à peine dans la région de Nantes et qui vient d'entrer en bourse pour poursuivre son développement. C'était lundi dernier. On va écouter son PDG, donc Mathieu Guéné, qui était l'invité de Good Morning Business. Mais juste avant, Jean-Baptiste Huette nous rappelle le cœur d'activité de Life. C'est donc de l'hydrogène vert. On ne parle presque que de ça depuis le début de cette émission, mais là c'est à partir de l'éolien. Voici le sujet de Jean-Baptiste Huette.
LIFE est au cœur de la stratégie française et européenne pour le développement de l'hydrogène. Il s'agit en effet de devenir des producteurs d'hydrogène vert. L'entreprise nantaise, fondée en 2017, utilise donc le principe de l'électrolyse, un courant électrique qui sépare les molécules d'hydrogène dans l'eau, un processus qui nécessite de grandes quantités d'électricité, et c'est bien là le cœur du sujet. Cette électricité doit être décarbonée, c'est-à-dire produite avec du nucléaire, du solaire ou de l'éolien. Et c'est cette dernière solution qu'a choisi LIFE. Trois éoliennes, par exemple, tournent nuit et jour à proximité de son usine de Boin en Vendée, où 300 kilos sont fabriqués chaque jour. LIFE possède 5 sites en France et emploie un peu plus de 80 salariés. Après 5 ans d'existence, l'entreprise s'est aussi taillée une solide réputation à l'étranger, au Danemark notamment, où elle a plusieurs projets. Le Japon aussi surveille LIFE avec beaucoup d'intérêt. Le conglomérat Mitsui, spécialisé dans la chimie, l'énergie, les ressources minières, a investi 10 millions d'euros dans l'entreprise. Au total, plus de 60 millions ont été levés depuis sa création. Mais pour poursuivre et financer son aventure à l'international, LIFE a choisi la bourse.
Et alors, vous avez 93 projets en cours à travers l'Europe. Donnez-nous des exemples de ces projets qui sont en développement.
On a gagné un appel d'offres auprès de la Deutsche Bahn pour alimenter le train à hydrogène de Siemens. On a gagné aussi un appel d'offres au Danemark pour faire le plus gros site au monde de production d'hydrogène. Aujourd'hui, le plus gros site qui est en Europe, il fait 10 mégawatts. Nous, on va faire quasiment 10 fois ça au Danemark pour décarboner l'industrie. 93 projets, c'est énorme. C'est un portefeuille de projets qui est quasiment 5 fois plus gros que certains de nos concurrents. Et comme vous le disiez, aujourd'hui, tout le monde veut de l'hydrogène vert pour remplacer le gaz russe, pour se décarboner. Donc notre marché est en pleine explosion. On a un objectif européen commun, que l'hydrogène représente 25% de notre énergie totale en 2050.
Philippe Merino, quand on voit des nouveaux entrants comme cela, 5 ans d'existence, vous en avez 50, donc il y a un rapport de 1 à 10, comment est-ce qu'on le vit? On se dit, il y a de la place pour tout le monde, on les intègre, on entre dans leur capital, c'est quoi la stratégie d'Air Liquide?
Alors ça fait 50 ans qu'on est dans l'hydrogène, mais ça fait 120 ans qu'on existe.
Absolument.
Alors je pense que tout d'abord, il faut être très content de la vitalité de la filière. Enfin, je crois que c'est, il faut saluer qu'il y ait plein d'acteurs qui rentrent dans cette filière. Et je pense que, comme on a dit, la politique des pouvoirs publics y est pour quelque chose. Je crois qu'il faut prendre conscience de la taille phénoménale potentielle de ce marché. Le rapport du Conseil mondial de l'hydrogène en 2017 disait en 2050, ça devrait être 2500 milliards d'euros. Pour donner un ordre de grandeur, ça veut dire que si Air Liquide avait 1% de ce nouveau marché, Air Liquide doublerait de taille. Donc, quelque part, il y aura, enfin, tout le monde va trouver sa place, parce qu'on parle d'une révolution absolument gigantesque. C'est 20% de l'énergie qui passera par ce nouveau vecteur qui est l'hydrogène. Après, voilà, c'est une filière qui s'est structurée. Je pense qu'on assume notre position de leadership du fait de notre histoire. Comme vous l'avez dit, on a touché à l'hydrogène depuis 50 ans sous toutes ses formes. Et comme leader de la filière, on regarde tout ce qui se passe, mais comme tout le monde.
Il nous reste 3 minutes, j'aimerais que l'on parle d'emploi. Donc avec vous d'abord Florence Rousson-Monpeau. Il y a toute une partie ici donc dans cet événement qui est consacrée à la formation, à l'emploi. Et de plus en plus dans tous les événements, dans tous les salons que vous organisez, l'emploi, les difficultés de recruter, les difficultés de formation, c'est au cœur aussi de ces rencontres.
Oui, tout à fait. Chez GL Events, nous avons choisi de créer cette division Green Tech Plus, qui organise 9 salons professionnels sur les enjeux, effectivement, de la transition énergétique aujourd'hui. On s'aperçoit que quand on parle de levier de compétitivité, quand on parle de politique de croissance, il est important pour les entreprises de pouvoir trouver les bons candidats. On a un enjeu aujourd'hui extrêmement important sur la structuration de nouveaux métiers. Je parle sous le contrôle de Philippe, mais France Hydrogène référence plus de 84 métiers autour de la filière de l'hydrogène aujourd'hui, avec, dans le cadre des évolutions qui sont attendus, une filière qui va passer de 3500 à 100 000 emplois directs et indirects. Donc effectivement, c'est un enjeu stratégique.
À quelle échéance ?
2030.
2030. Il nous reste vraiment quelques secondes. Je vais faire un petit tour de table rapide. Cette émission s'appelle La France a tout pour réussir. Est-ce que vous estimez, je commence avec vous Philippe Merino, que la France a tout pour réussir en matière d'hydrogène ?
Absolument. On a les talents, on a la technologie, on a la volonté, on a les clients. Ben, c'est le temps d'agir, c'est le temps de l'action là.
Jean-Baptiste Choimet.
Absolument. On a des acteurs dans tous les segments de la chaîne de valeur. Ce n'est pas donné à tous les pays dans le monde. On a des ingénieurs extraordinaires, des grands scientifiques, et avec ça, je pense qu'on va y arriver.
Luc Poirier,
un chiffre pour la fin. En 2007, l'Europe arrivait à produire 32% de ses panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, c'est 2,5%. Faisons en sorte qu'il ne se passe pas la même chose pour l'hydrogène.
Mais parfois, il faut des incitations fiscales et des politiques volontaristes aussi.
Et maintenant, il faut des industriels capables d'exporter et d'être compétitifs.
Ils sont là, sur notre gauche. Philippe Boucli, la France a tout pour réussir.
On a tout pour réussir. Il y a notamment des grands groupes qui ont, l'envergure pour investir, pour aller sur toutes les... dans tous les... à l'international. Des PME, PMI, start-up qui ont cette créativité et cette agilité que n'ont pas forcément toujours les grands groupes, l'excellence de la recherche et puis la motivation des territoires, notamment les régions qui ont comme compétences à la fois la mobilité, le développement de l'économie et la formation. Donc,
c'est le lieu clé.
Qui sont très motivés. Toutes les régions de France ont une stratégie ou une feuille de route, ont des budgets alloués au développement. Donc on a vraiment tout pour réussir.
Et est-ce qu'on a également tout pour réussir? Qu'est-ce que vous en pensez, Florence?
Je pense qu'on a tout pour réussir. Nous sommes ravis de pouvoir proposer aux acteurs du marché un formidable outil qui est un accélérateur aujourd'hui des stratégies, de la structuration des activités des entreprises. Je vous donne déjà rendez-vous en février prochain à la porte de Versailles. Et puis, je crois qu'on a beaucoup parlé d'internationalisation. On a travaillé aussi avec France Hydrogène et le MEDEFI à la création d'un nouvel événement au Chili. Je crois que c'est aussi important qu'on puisse du coup accompagner les entreprises dans le cadre de leur développement international.
Et de développer la marque Evolution.
Exactement.
C'est important. Le mot de la fin en quelques secondes.
Il y a beaucoup d'acteurs. Le maître mot aussi, c'est coopération, collaboration. Et pour les Gaulois que sont les Français, c'est pas toujours simple.
Les Gaulois parfois un peu réfractaires.
Hein. Voilà.
Eh bien, grand merci. Merci à vous tous. Et je voudrais également remercier très chaleureusement Jean-Baptiste Huet, mon collègue de la rédaction de BFM Business, spécialiste de l'énergie, pour l'aide à la préparation de cette émission. Merci également à Annalisa Capellini pour la production. Le week-end prochain, c'est ça la diversité de la France à tout pour réussir. Je recevrai David Douillet, l'ancien champion de judo parmi ses très nombreux vies, s'est lancé depuis 3 ans dans l'immobilier. Il nous en parlera, ainsi que de sa fondation qui soutient les jeunes sportifs en début ou en fin de carrière. D'ici là, donc, très bon week-end, très belle semaine et à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.